polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui n'a rien à voir avec sa décision d'arrêter le tennis, a-t-elle expliqué hier. Mariée depuis quelques mois, celle qui était aussi connue pour voir sa longue natte blonde se coincer régulièrement dans sa raquette, souhaite désormais sensibiliser cette maladie à travers le monde, mais aussi découvrir d'autres choses et fonder une famille.
Éric Mamrut, enfin, 17e journée de Ligue 1 hier, large victoire de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de Nîmes, 4-0. Le club de Lille s'est imposé face au Stade Brestois, 1-0. 5 matchs à suivre aujourd'hui, ça commence à 17h30, Montpellier affronte le PSG. C'est la fin de ce journal, restez.
Radio G, 101.5 FM.
Bonjour. La nouvelle de Mohamed Dib que nous allons vous lire est extraite de son recueil Au café, publié en 1956. Ces nouvelles sont l'observation minutieuse du quotidien algérien, des histoires de gens d'Algérie qui peuvent être de tout pays, de tous les temps. Ces personnages émouvants et humains que l'on rencontre dans ces nouvelles sont liés à ceux des grands romans de Mohamed Dib. Mohamed Dib était un écrivain algérien de langue française, auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, de contes pour enfants et de poésie. Dans son recueil « Tlemcen ou les lieux de l'écriture » publié en 1994, Mohamed Dib écrivait « Le cadre premier de mes écritures fut le patio ». Cette cour que nous, Algériens, appelons le centre de la maison. Dans cette cour, nous ne faisons pas qu'y passer, mais nous y rencontrer. Boire, par exemple, notre thé avec, pour inviter quelques voisins, jardin des conversations. Si, par chance, votre cour possède un bassin, un jet d'eau et un carré de fleurs autour, ou que simplement une vigne, comme c'est le cas ici, y soit plantée, assurément, vous connaissez votre bonheur.
كل هالدار مسوس ويجيب صداع الرزوق كل هالدار مسوس ويجيب صداع الراس يلي بيك عالفرق علاش تسبب وانا قلبي معمر منك بالمعاني كان كدبت اسأل مجرب كان كدبت اسأل مجرب ولا طلب.
Il était tard. Je me demandais si je ne devais pas m'en aller de ce café bruyant, sombre. Seul devant une table, je regardais autour de moi les groupes qui bavardaient et fumaient sans relâche. Au fond d'une atmosphère obscurcie, les joueurs battaient leurs dominos avec des claquements de fouet qui, à la longue, portaient sur les nerfs. Les murs étaient recouverts de traînées de crasse et, plus haut, le crépi jaune foncé devenait encore plus sale, jusqu'au plafond, noir de suie. Contre les murs couraient des banquettes en bois, longues et larges, pouvant porter jusqu'à 10 personnes, tandis que de vieilles chaises de paille, poussiéreuses, traînaillaient au milieu de la salle. Un brouillard de fumée dense s'amassait sur tout cela, et, lentement, sous la clarté blanche des ampoules, se diluait en une vapeur diffuse et âcre. Je regardais la porte. Une étrange lourdeur m'enchaînait à mon banc. Derrière les vitres, le ciel était pesant et funèbre. Avec un ululement sourd et ininterrompu, le vent secouait les grands arbres de la place du Beylik, qui se fondaient dans l'obscurité. Je n'eus plus la force de partir. Je me renfonçais dans mon coin, une douceur intime, envahissante. Une lancinante incertitude enveloppèrent mon cœur et je continuais de songer à la nuit hostile, pluvieuse, qui étouffait la ville. Dans ce café, parmi la masse enfumée de ces gens remuants, j'avais au moins un refuge et je pouvais goûter à cette bonne sensation de chaleur. Il n'y avait guère que des pauvres à air ici, un ramassis de 100 foyers et aussi des fellahs déracinés, ayant déserté la campagne, reconnaissables à leur visage aux traits durs, recuits, profondément ravinés. Les uns comme les autres respiraient le même air de misère. Chacune de ces existences traînait, là-dedans, comme l'une quelconque de ces chaises, aussi inutile et boiteuse. À l'exception toutefois d'un petit homme, entièrement engoncé dans une djellaba de laine blanche, soigné et propre, dont la présence paraissait étonnamment déplacée en ce réduit où se mêlaient habits fatigués, chéchias graisseuses, burnous et manteaux en loques. Comme la plupart de ceux qui étaient là, je laissais passer les heures. Je savais pourtant que mes enfants m'attendaient, que ma femme m'attendait. Et quoi ? Depuis plusieurs jours, je ne leur avais pas porté à manger. Depuis plusieurs jours, pas un sou n'était tombé dans ma poche. Alors je préférais rester au café. Il pleuvait. La nuit était tombée depuis longtemps. Le vent soufflait par bourrasques glacées et je me tassais dans mon coin, engourdi, essayant de tout oublier, sauf cette chaleur douce qui s'était logée dans mon corps. Je me recroquevillais sur moi-même pour la retenir pendant que la vie trépitante du café bouillonnait alentour. Patiemment j'attendais, moi aussi. J'attendais que la fatigue terrasse mes enfants, ferme leurs yeux qui posaient une interrogation muette et terrible, toujours la même, dès qu'ils me voyaient rentrer. J'attendais que le sommeil défasse leurs pauvres membres étiques, pose sur leurs petits visages gris et comme couverts de cendres une expression enfin reposée. J'attendais que ma femme, lasse de veiller, se couche. J'attendais. Dehors, l'obscurité, l'humidité pénétrante, froide. Le grondement du vent se faisait plus assourdissant, et, par instants, la pluie frappait brutalement et à coups redoublés les baraques du Beylik qu'on distinguait vaguement, adossées les unes aux autres. Mon cœur, lui, se serrait sur l'impression de vivifiante tiédeur que je ressentais dans ce café, les pieds au sec. Pourtant, le petit feu allumé en moi s'obstinait à fondre tout doucement. Je scrutais encore les ténèbres à travers les vitres embuées. Soudain, je frissonnais. « Voilà 3 ans que ça dure, pensais-je. 3 ans que je vis dans la crainte de rentrer chez moi. » Et je regardais droit dans les ténèbres. À cette seconde, il me sembla voir une trogne hideuse m'adresser un rictus énigmatique et froid. Le bruissement entêté des gouttes invisibles qui tombaient appelait en moi des idées tristes. Sans doute mon imagination, énervée, excédée, se divertissait-elle à dresser devant mes yeux ces fantaisies malsaines, ces bizarres simagrées. Quoi qu'il en soit, pendant que la pluie crépitait sur les toits des baraques, que le vent sifflait sur une note inquiète et geignarde, que des rafales retentissaient avec monotonie et désespérance, quelque chose d'intolérablement ennuyeux, de lassant jusqu'à l'écœurement, me gagnait. Quelque chose qui me donnait envie de fuir, le diable sait où. Je fixais ainsi la porte du regard, roulant dans ma tête de moroses pensées, toujours pris entre mon désir de partir et le besoin invincible de prolonger encore de quelques instants ce répit, quand, poussant faiblement un battant, comme si les forces lui manquaient, un homme se glissa à l'intérieur du café. Crénom, un tel gaillard arrivé comme cela sur la pointe des pieds ? Ayant passé la porte, il resta immobile. Il posa des regards profonds, insupportablement absents, sur la salle, les gens, les murs. Je fus troublée par leur expression. Dans l'atmosphère surchauffée du café, il dut éprouver tout de suite une sensation de bien-être. Ses épaules, qu'il relevait vers ses oreilles, retombèrent peu à peu. Cet homme était grand, large de coffre. Il paraissait avoir atteint et même dépassé la quarantaine. Mais comment se pouvait-il qu'il eût une barbe entièrement grise? N'était son costume européen à cause de la barbe, je l'aurais pris pour un adepte de la secte des Derkawa. Avec cela, il avait un beau visage maigre, un de ces visages à l'expression noble et douce, empreinte malgré tout de sévérité et même de tristesse, qu'on rencontre fréquemment chez les paysans qui vivent aux abords immédiats de la ville. Ses yeux qui lignotèrent un peu, piqués par la fumée ou la clarté sèche des ampoules électriques nues, accrochées comme des poires à leur fil. De tous côtés, des volutes grises se déroulaient dans l'air épais de la salle. Un bruit de voix indescriptible, traversé de cris, d'appels, de discours indistincts, de rires, montait inlassablement, comme dans une sorte d'hystérie générale, confuse et fracassante. L'expression qu'on déchiffrait sur le visage de l'homme était aussi insolite que celle du regard. On eût dit qu'il venait d'un pays lointain, qu'il ne connaissait pas la langue ni les coutumes des gens qui l'entouraient, et que c'était pour cela qu'il se contentait, comme il le faisait, de contempler personnes et choses sans espoir de communication. Après tout, me disais-je, ce n'est sans doute qu'un pauvre diable venu mendier en dépit de l'heure. Manquant d'habitude, il ne devait pas oser tendre la main. Et il voulait aussi profiter peut-être de l'effet bienfaisant de l'air chaud avant de retourner à la nuit inclémente. Pendant que je réfléchissais ainsi, j'observais tout de même qu'il n'avait pas l'air d'un mendiant ni d'un vagabond. Son complet de drap marron n'était pas neuf, mais il était encore très correct et avait, je le reconnais, une meilleure apparence que le mien. Les chaussures qu'il portait aux pieds paraissaient aussi être en bon état. Alors, comme s'il s'était dégourdi, il avança vers les tables. Il portait sur moi maintenant son curieux regard. Il venait dans ma direction d'une démarche précautionneuse, feutrée. Parvenu devant ma table, il poussa un peu avec ménagement, en se baissant, l'un des petits bancs qui se trouvait là, et s'assit sans autre forme.
« Dieu te vienne en aide, » dit-il en guise de salutation. Sa voix était commune, mais il y avait sur elle comme un voile qui lui faisait rendre un son sourd. Il mit un coude sur la table en évitant les flaques noirâtres qui s'y étalaient par endroits. La table de bois vacilla sous le poids. Il retira son coude et plaça les deux mains sur ses genoux en redressant le buste. Durant tout ce temps-là, ses regards demeurèrent attachés sur moi. À présent qu'il s'était rapproché, je voyais que ses yeux gris bleutés sous les sourcils drus avaient je ne sais quoi de rêveur, tout grands ouverts qu'ils étaient. Examinés ainsi à peu de distance, ils perdaient leur déconcertante fixité. Mon voisin fut un bon moment silencieux. Oubliant déjà sa présence, je retombais dans mes pensées. J'imaginais les petites figures pâles et pointues de mes enfants endormis, ayant perdu tout espoir de me voir revenir. L'homme, à mes côtés, tout sauta d'une toux spéciale. Alors je compris qu'il voulait m'adresser la parole. « Frère, je sors de prison, » m'informa-t-il de sa voix étouffée. Ce fut pour moi l'illumination. Comment ne l'avais-je pas compris avant? Tout en lui le proclamait. Son allure glissante, muette, la docilité de sa démarche, ses yeux qui paraissaient aspirer toute chose, la voix posée et assourdie, bien sûr, tout cela désignait éloquemment l'homme qui a passé un long temps, peut-être des années, à l'ombre de pesantes murailles de la prison civile. Comment ne l'avais-je pas deviné plus tôt? Une pensée inquiète vint me troubler. Cet homme était venu vers moi, sûrement avec l'intention de quémander une aide, ne fût-ce qu'une maigre obole. Or, Dans le fond de ma poche, j'avais tout juste les quelques francs avec lesquels je comptais payer le thé que j'avais bu. Il y a une couple d'heures. Le verre avait même disparu de la table, emporté par le garçon. Celui-ci, qui connaissait ses clients, jugeait inutile de leur laisser les verres jusqu'à ce qu'il fût payé. Je regardais mon compère. Sachant que je ne pouvais lui être d'aucun secours, je m'apprêtais à lui tourner le dos, même à lui manifester mon hostilité de telle sorte qu'il se verrait privé de toute velléité de pousser la conversation plus avant. Puis j'eus honte de moi-même. Je lui jetai alors des regards encourageants, je fus sur le point de lui demander la raison qui l'avait conduit à la prison, mais je me retins à temps. Brusquement, je ne sais pourquoi, je me revis à Paris quand, il y a longtemps, plein d'illusions, je m'y étais rendu, croyant, comme beaucoup de mes compatriotes, trouver aisément du travail. Je venais d'arriver, par bonheur, j'avais pris mes précautions. J'avais sur moi toutes mes économies, une somme assez rondelette, ma foi, qui allait me permettre de vivre sans souci pendant 2 mois au moins dans ce Paris que je ne connaissais pas. Je passais un jour dans une petite rue quand je fus abordé par un bonhomme de français qui était court sur jambes, gros, la tête en forme d'œuf couronnée d'une tignasse laineuse, rousse et tellement frisée que l'on aurait cru que ses cheveux avaient été récemment grillés par les flammes. Il me tendait 2 billets jaunes de métro. J'avais tout de suite remarqué l'expression de ses yeux. Elle ressemblait tout à fait à celle de l'homme que j'avais devant moi en ce moment au café. Le rouquin me dit « Voulez-vous acheter ces tickets, monsieur? Je sors de prison, je n'ai pas le sou. » Sans rien dire, je pris de l'argent dans la poche droite de mon veston où je mettais quelques petites coupures et de la monnaie pour mes dépenses de la journée. Je lui mis cet argent dans la main et bêtement j'acceptai ses billets de métro. Mais dès que je me ravisais et voulus le rappeler pour lui rendre ses malheureux tickets, il avait disparu. Bien du temps s'était écoulé depuis cette époque-là. Je m'étais retrouvée de nouveau en Algérie et de nouveau sans travail, mais laissons cela. En face de mon voisin, je me demandais maintenant si vraiment quelque signe mystérieux me désignait à l'attention des gens de cette sorte, les attirait vers moi. Je questionnais cet homme. Depuis combien de temps étais-tu en prison ? 5 ans, me répondit-il d'un ton calme. J'avoue qu'une pensée saugrenue me traversa l'esprit à cet instant. Voilà 3 ans que moi je cherche du travail et celui-là n'a connu somme toute aucune difficulté 5 années durant. Dès lors, je fus curieux d'apprendre comment il en était arrivé là. À mon intérêt se mêlait un début, je le remarquais, de sympathie. Je n'ai jamais éprouvé de crainte devant l'homme, quel qu'il soit. En général, même un assassin n'est jamais un être irrémédiablement perdu. Pour ces gens qui sont considérés communément comme le rebut de la société, ce qu'il y aurait plutôt à craindre, c'est précisément un châtiment trop lourd qui pourrait bien éteindre en eux l'étincelle humaine. Tuer dans leur cœur les aspirations généreuses et les transformer en bêtes féroces. Mais, en cet instant, je sentais quelque chose de tout à fait à part, quelque chose d'excitant et d'insolite. Je jetai sur lui un regard, il fermait les yeux. Il avait réellement un beau visage, la barbe grise, frisant aux extrémités, également répartie autour de sa figure. Lui seyait admirablement et lui donnait un air de spiritualité qu'on ne saurait exprimer. Quand il rouvrit les yeux, au bout d'un instant, il posa sur moi un doux et pitoyable regard. Je fus saisie. Ma curiosité prit place à une impression qui était, pour moi, toute nouvelle et désagréable. Afin de dire quelque chose et surtout pour chasser le malaise que je ressentais, je prononçai les premières paroles qui me vinrent en tête. « Pardonne-moi, je voudrais bien t'offrir un verre de thé, mais je n'ai pas d'argent, sauf ceci pour payer le thé que j'ai bu. » Je lui montrai dans le creux de la main les quelques francs, mêlés à des débris pelucheux, à des miettes de pain toutes grises et à des brins de tabac que j'avais pêchés dans ma poche. Comment, fit-il, relevant très haut ses sourcils, l'air surpris. Pas du tout, c'est moi qui paye. Tu m'excuseras si je n'ai rien dit. Je ne croyais pas que tu voulais boire quelque chose. J'allais lui répondre qu'il n'était pas question de moi, mais il avait déjà appelé le garçon. Quand il le pria de nous apporter une grande théière, celui-ci parut étonné par l'imprévu d'une telle commande. Il fut sur le point de dire « Quoi ? On ne sait ?» Puis il hésita et s'en alla sans avoir ouvert la bouche. « Eh, dit mon interlocuteur, pourquoi pas ? L'occasion en vaut la peine, tu crois pas ? On ne sort pas de prison tous les jours. » Il se tut et n'ajouta plus un mot jusqu'au moment où la théière fut posée entre nous. Là-bas, poursuivit-il, j'ai gagné de l'argent, car on nous faisait travailler. À mon départ, ils m'ont tout remis. Empoignant la théière, il se mit en devoir de remplir les verres. Je ne connais personne ici, tu voudras bien me permettre. Mais, malgré cette conversation, je devinais en lui l'homme qui n'avait pas le goût de se dépenser en bavardage. Ses phrases étaient brèves et pas toujours claires, d'ailleurs. Je lui adressai alors des paroles que je ne me serais jamais cru capable de dire à un inconnu. « Tu as un bon visage. » Je ne me retins plus et ajoutai « Tu ne ressembles pas à un assassin. » Se tournant vers moi d'un air résolu, il se campa sur son banc, appuya les mains contre ses genoux et parla d'un trait. « Tu penses que j'ai tué, vieux frère, que je suis une bête sauvage ? Non, je ne suis pas ce que tu crois. » Il parla ainsi longtemps, fermant souvent les yeux sans interruption. Il s'exprimait lentement d'une voix distincte, quoique basse. Ses lèvres, en remuant, révélaient leurs contours fermes. Je voudrais me rappeler toutes ses paroles. Elles avaient un accent insolite. Son regard aussi avait une expression particulière. Il reflétait une telle pitié qu'il m'oppressait. Mais l'inconnu, lui, tranquillement parlait comme jamais un homme ne parle de lui-même. De ce moment, je sentis que je perdais mon assurance. Toutes les idées qui me paraissaient être un appui solide me quittèrent. Cet homme, dont j'ignorais l'existence une demi-heure plus tôt, par ses propos, par son regard, venait de bouleverser mon horizon habituel et mettre à nu le mensonge. Oui, le mensonge, j'ose le dire à présent, du monde, l'hypocrite satisfaction qui couvre et enveloppe la vie. Ainsi, moi, qui n'avais reçu que des rebuffades jusque-là, je m'en accommodais au fond de moi-même, j'acceptais tout. Mais pourquoi ? Simplement parce que je m'imaginais que tout finirait par s'arranger, qu'il me suffisait donc d'avoir de la patience. Que j'ai une bonne prise sur la vie, disais-je, pour me consoler, et je montrerais de quoi je suis capable. Mais en attendant, berné par ce sentiment de fallacieuse sécurité, je perdais pied chaque jour davantage, j'allais de plus en plus à la dérive. Je ne révélais rien de mon désarroi à l'inconnu, bien qu'il dût deviner quelque chose.
Thank you.
voici l'histoire qu'il me conta. L'homme n'avait pas voulu tuer, mais voler. C'était la première fois qu'il volait. D'après ce que j'ai pu comprendre, son acte avait été dicté par la faim, le désœuvrement et un terrible ennui. Tout cela le rongeait à la fois. La chose se produisit dans des circonstances suivantes. Un soir qu'il errait, sans travail, apparut sur son chemin un charton qui ramenait de la gare de grandes boîtes en carton. Il se glissa derrière le véhicule, fendit aisément une boîte avec un canif. Le conducteur marchait à l'avant, à côté de son cheval, sans se douter de ce qui se passait dans son dos. « Je ne savais pas ce que j'allais trouver, » fit remarquer mon voisin. « Or, c'était des biscuits. Une aubaine, hein, vieux frère. Ils étaient faits pour les gens distingués de la ville. Eh bien, moi aussi, j'en aurai ma part, me suis-je dit. » Il y puisa à pleine main, s'en emplit les poches, en glissa sous sa chemise. Le conducteur l'aperçut et se jeta sur lui. Mon homme lui asséna un coup de poing à la tempe. L'autre tomba. « Je le regarde, » dit-il. Il reste allongé à mes pieds, le visage tourné vers moi, les prunelles exorbitées, la bouche béante. Soudain, je suis frappé de stupeur. Je me baisse et je veux lui soulever la tête. Elle est pesante comme un billot de boucher et glisse de mes mains d'un côté, puis de l'autre. Ses yeux conservent encore leur expression de colère, mais qui se mue déjà en une dureté glaciale, affolante. Je sens alors mes mains se couvrir du sang qui suinte de son crâne. Pendant ce temps, le charton s'éloigne tout seul, entraîné par la bête aveugle. Brusquement, je me redresse et me mets à hurler comme un dément. « Oh, bonnes gens, j'ai tué !» Peu de temps se passa entre le drame, rapide et brutal, et l'instant où il fut conduit au commissariat de police, puis en prison. En parlant, il regardait devant lui. Bien que ses yeux clairs fussent immobiles, il me semblait y voir tressaillir la lueur indécise de l'effroi qui saisit l'homme mis soudain en face de son destin. Sans se rendre compte de ce qu'il faisait, il avait joint les mains, et maintenant il les serrait, les nouait très fortement, à faire craquer ses os. « En prison, reprit-il, entouré de voleurs et de criminels, j'ai vécu comme dans un brouillard. Je ne comprenais plus rien à ce qui m'arrivait. Mon âme suait de terreur à cause des pensées qui venaient la visiter. » La nuit, il me semblait les entendre s'agiter près de moi, et mes cheveux se hérissaient. Pendant longtemps, j'ai vécu dans cet état. Je ne connaissais plus le sommeil, je ne touchais pas à la pitance qu'on me donnait, elle restait intacte. J'étais attentif uniquement aux pensées qui poussaient, qui proliféraient en moi. « Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a donc ?» me disais-je sans cesse. « Un homme respire, accomplit sa tâche, j'arrive, je lui donne un coup, et plus d'homme. Qu'est-ce que c'est ? Où est donc la vie ? Dieu l'a créée, et moi je l'ai tuée. Ainsi je n'ai pas eu de pitié de son âme, ni de son effort, ni de sa misérable existence, ni de la sueur de son corps, ni de la femme qui l'a mise au monde. C'est comme si on m'avait donné un mouton et qu'on m'eût dit « égorge-le ». Il est pareil à moi, et moi je le tue comme si c'était un animal. Après cela, je sors de prison, mais je reste toujours comme endormi. Je comprends encore moins. Maintenant, ce qui se passe dans le monde. Je vois bien des gens qui déambulent, vont, viennent. Ils s'agitent, bavardent, achètent, vendent, travaillent, bâtissent. Les uns courent, les autres flânent, traînant la savate. Certains passent en voiture, et le plus grand nombre à pied. Mais aucun de ceux-là ne se doute des pensées qui me trottent dans le crâne. Je vais recommencer à chercher du travail, me dis-je. J'irai en demander partout. De nouveau, je serai tenté de voler, si je n'en trouve pas. Quand la faim devient trop forte. De nouveau, des idées bizarres me tournent autour. « Je peux tuer encore. N'importe qui !» souffle quelqu'un dans ma tête. « Ou n'importe qui peut me tuer !» Il me semble dès lors que le monde se vide, encore et toujours plus. De la foule que je côtoie, il ne subsiste qu'une armée d'ombres inconsistantes, irréelles. Il parla ensuite de la faiblesse de l'homme. Son visage d'ascète s'assombrit, se revêtant d'une beauté inspirée. Malheureusement, une folie sinistre allumait son regard, et les mots qu'il employait étaient lourds, comme s'il épuisait dans un délire. En prison, je vivais replié sur moi-même, toujours silencieux, évitant les autres condamnés. Ceux-ci me demandaient « Pourquoi vis-tu si tristement, et toi, t'as perdu quelqu'un ? Portes-tu le deuil ?» Il était bien question d'avoir perdu quelqu'un. C'est aux hommes que je pensais. Au monde, comment il est fait ? Ah, il est bon le temps où l'on ne sait que se poser des questions. Je regardais tous les prisonniers et je murmurais. Que le Seigneur vous ait en sa sainte garde. Votre vie est fragile. Vous êtes sans défense contre le monde qui vous broie, vous piétine, vous rejette comme des objets hors d'usage, et vous ne le savez pas. Ainsi, je vivais continuellement avec ce poids sur l'âme. En disant ces mots, mon voisin soupira profondément. Ne sachant comment répondre à ses propos, je me sentais mal à mon aise. Il était évident que ces paroles étaient celles d'un demi-fou, mais elles remuaient en moi des régions obscures où elles réveillaient des échos lointains et douloureux. J'étais en train de ruminer ses pensées quand il reprit avec une sorte de dépit. Voilà des hommes qui ont été mis au rebut. Désormais, ils vivront toujours en marge et ne compteront plus. Et pourquoi ? Parce qu'un jour, ils ont volé une miche de pain ou une poignée de riz ? Le pire, c'est qu'ils ne réfléchissent même pas à leurs conditions. Voilà ce qui m'inquiète. Et des quantités de vie peuvent ainsi être brisées. Pense-y seulement. Où est l'interdiction qui te défendra de faire du mal ? Où est l'interdiction qui te préservera du mal qu'on voudra te faire ? Il n'y en a nulle part. Il n'y en a en rien. Le principal n'est pas en toi, ni dans ta mauvaise pensée. Je vais voler, mais dans le monde qui fait de toi un chacal glapissant. Car ce n'est pas toi qui es pourri, c'est le monde. On dirait un abcès qui n'arrive pas à crever. Les yeux mi-clos, comme s'il poursuivait une idée insaisissable, l'homme chuchota d'une voix blanche. J'ai compris que mon sort est injuste. Puis, inopinément, il sourit. Une incroyable fraîcheur se répandit sur ses traits.
« Oui, me dit-il, je pense à mon avocat. C'était un de ces jeunes hommes d'aujourd'hui, des cheveux huilés, de la prestance, du savoir et quelle éloquence. Lui aussi était un ami du peuple. Mais aux yeux de ces gens-là, qu'est-ce que nous sommes ? Il criait toujours. Qui peut dire du mal de cet homme ? Aucun des témoins n'en a dit un mot. Voilà comment il me défendait. De fait, il m'a bien défendu. Mon meurtre ne m'a valu qu'une peine légère. 5 ans de prison. Seulement après ça, que s'est-il passé ? Tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a rien eu de changé. Mon interlocuteur s'arrêta de parler, souleva son verre et avala une rasade de thé. Ensuite, il s'éclaircit le gosier et poursuivit posément. Pour cela, je dis, les avocats, c'est de la bagatelle. Défends-moi quand j'en ai encore besoin. Défends-moi avant mon crime et ne me laisse pas en arriver là. Après, il est trop tard. Une fois que je suis lancé, personne ne me rattrapera. J'irai jusqu'au bout. Je courrai jusqu'à ce que je tombe. Vous pouvez me ligoter, mais c'est le monde qu'il faudrait changer. Imbécile! Et surtout, ne m'enseignez pas comment il faut vivre. Peut-être serais-je capable, tel que je suis, de vous donner des leçons là-dessus. Donnez-moi plutôt la possibilité de vivre. Comment ne comprenez-vous pas cela ? Condamnez-moi sévèrement, condamnez-moi à mort. Cela vaudrait mieux. C'est votre monde qui me dégoûte. Les hommes en souffrent trop. Il vaudrait mieux nous supprimer. Sinon, nos bras poussent et s'allongent de plus en plus. Quand nous aurons assez bu de cette lie, c'est nous qui vous supprimerons. » Ayant dit ces mots, il retomba dans son mutisme. Il ne bougeait plus. Sa physionomie même se figea. Cette immobilité jointe au silence faisait naître progressivement en moi, je le sentais, de la crainte. J'avais peur de mon voisin. Je cherchais ce que je pouvais bien lui dire, mais je ne trouvais rien. Ce fut lui qui se remit à parler. « Chienne de vie » proféra-t-il distinctement. Mais ce n'était pas du tout une plainte. Il y avait beaucoup d'indifférence sous cette parole. Manifestement, il pensait à quelque chose d'autre. Je me dis quand même, voilà un homme qui a réfléchi. Il est arrivé à une conclusion et je ne peux pas réfuter sans me contredire. Je restais muet. Lui, comme s'il ne le remarquait pas, déclara encore une fois tout haut « Chienne de vie !» Cette fois, je discernais l'accent de douceur qu'avait sa voix songeuse. Cette fois encore, nulle plainte ne vibra dans sa phrase. Il était évident que cet inconnu était parvenu à une lucidité sereine. Une telle lucidité me fut indiciblement pénible, et je compris que si je continuais à me taire, j'allais devenir fou, comme cet homme. À cet instant, il me demanda la permission de commander encore du thé. Nous en étions à notre deuxième théière, il insista. « Pourquoi pas ? J'ai de l'argent que j'ai gagné en prison. » Il donnait des coups du plat de sa main sur la poche de sa veste en faisant tinter des pièces. « Tu n'es pas pressé, disait-il. Tu n'as rien à faire à cette heure-ci. Alors reste. » Ce soir-là, je m'attardais encore plus que d'habitude au café. Dehors, dans la rue, une pluie sombre et grasse, comme de la poix, clapotait et gargouillait opiniâtrement.
غير اللي يحب صلاحه واحد في المية تصيب في عشرته شبعان علاش الناس قباحه كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب قساحه والحسود يداوي النيران.
Cette nouvelle a été lue par Jocelyne Collin et Ouria Larbi Mansour. Les musiques que vous avez entendues sont extraites d'un album d'Aman El Arachi et d'un album d'Anwar Brahim qui s'intitule Le pas du chat noir.
يلبغدني من سامح لك طول زماني شوف لحالك يا ناقص ما في كمان تهضر فيا كلام
Coucou, salut, moi c'est Thierry. Si comme moi vos oreilles se dressent quand une musique afro-américaine se fait entendre, je vous attends chaque jeudi à 21h pour Sons of Blues, ici sur le 101.5 de Radio G. Une heure de blues dans tous ses états. De l'international au local, des découvertes, des nouveautés, sans oublier les grands qui ont fait l'histoire de cette musique. Rendez-vous chaque jeudi à 21h en direct pour Sons of Blues sur Radio G 101.5.